Vous écoutez France Culture.
I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆家正忙。
Bollywood star Kapoor ki lochering ki baat kar rahe hain.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde. Nous sommes ensemble tous les jours de la semaine jusqu'à 11h50 et vous retrouverez Florian Delorme à partir du 30 décembre après ces quelques jours de vacances bien méritées. Cette émission est réalisée par Delphine Lemaire et mise en ondes par Myriam Guillot. Cette semaine, nous prenons les commandes de l'émission et nous pénétrons dans le monde pas si virtuel des jeux vidéo. Nous explorons le monde par le petit bout de la manette. Demain, un écran de l'économie globalisée. Nous nous pencherons sur cette industrie mondiale du jeu. Mercredi, Hollywood tient le joystick des liens trentenaires avec le cinéma. Et enfin, jeudi, nous décortiquerons l'idéologie cachée derrière le divertissement. Mais aujourd'hui, Connecting People, les jeux vidéo et leurs pratiques de sociabilité.
Au tournant du siècle, le jeu vidéo rencontre Internet et la puissance des réseaux. Qu'est-ce qui change ? C'est la possibilité à n'importe quel moment d'y rencontrer d'autres joueurs et de construire ensemble une réalité parallèle à la nôtre.
Video game.
Le jeu vidéo, c'est un moyen d'expression, un outil. Je m'en sers pour communiquer avec d'autres joueurs. Chez les humains, on a ce cortex frontal qui nous permet de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre pour mieux le comprendre. C'est de là que vient notre compassion. À l'heure actuelle, le jeu vidéo est le média qui se rapproche le plus de la vie. Les mondes virtuels nous offrent de vivre des imprévus, des dilemmes et un vrai rapport aux autres. On peut voir tout ça au cinéma, mais il n'y a aucune interactivité.
Voilà des extraits du très beau documentaire Game Over réalisé par Hervé Martin Delpierre. Un documentaire qui casse bien des idées reçues. Le joueur est addict, le joueur est asocial, le joueur est un adolescent mal dans sa peau et mal à l'aise avec les codes de la vie en société. Bien, tous ces poncifs, on les entend, on peut même encore les lire parfois dans la presse. Et pourtant, ils sont si loin de la vérité. Au-delà du cliché, il y a une diversité de jeux, une diversité de pratiques qui évoluent dans le temps, dans l'espace et dans les cultures. C'est ce que nous allons explorer ce matin. Et bien souvent, ce sont des pratiques de sociabilité qui s'établissent autour des jeux vidéo. Nous irons donc en Corée avec Hong-Jing Park, joueur de e-sports, qui nous parlera de ce phénomène national qu'est le jeu en réseau. Puis nous ferons le grand écart entre l'Australie et le Venezuela, avec Thomas Perley, professeur d'université à Sydney. Mais pour commencer, nous sommes en plateau avec vous Thomas Gahon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien, administrateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Alors Thomas Gahon, quand on parle de sociabilité autour du jeu vidéo, cette sociabilité, elle dépend du lieu du jeu, de l'endroit où l'on joue. Et en 50 ans d'histoire, 1962 pour Space War si on le considère comme le point de départ, 72 si on prend Pong comme premier jeu commercial, eh bien le lieu du jeu, ça n'a pas toujours été une chambre d'adolescent, Thomas Gahon.
Tout à fait, ça a d'abord été l'université américaine, les campus d'ingénieurs notamment, ou Steve Russell notamment, ont créé les Space War, parce que le jeu vidéo est intrinsèquement lié au matériel, c'est-à-dire la machine, qui coûtait extrêmement cher, qui était large comme une pièce, pour pouvoir y jouer. Et ça servait également, les jeux vidéo servaient de démonstration des performances des machines. Ça reste d'ailleurs souvent un argument de vente. Pour une machine, les capacités qui peuvent être affichées ou calculées pour les microprocesseurs. Donc c'est d'abord à l'université, entre universitaires, les ingénieurs, et puis la commercialisation fait que cela commence à apparaître dans les bars et dans les salles d'arcade, alors pas dans les salles d'arcade, les arcades, ce qu'on appelait les arcades, c'est-à-dire les centres commerciaux aux États-Unis, dans les grands centres commerciaux américains où on venait faire son shopping en famille, et les enfants, les adolescents, eh bien, se réunissaient sous les arcades pour essayer Pong, Pac-Man dans le fin des années 70, début des années 80, avec une sociabilité particulière, un entre-soi, principalement, encore une fois, jeune, on va dire, hein, adolescent, masculin, mais pas seulement. Et on en voit des images, d'ailleurs, dans beaucoup de films américains, hein, également, que ce soit Tron, que ce soit Terminator 2, où on voit ces salles d'arcade avec plein de bruit, plein de lumière et des réunions autour de jeux vidéo. À qui mieux, qui joue le mieux, etc.
Alors avec le lieu du jeu, eh bien, les machines de jeu vont aussi évoluer et elles nous apprennent beaucoup de choses, elles aussi, sur les pratiques, l'histoire des pratiques, parce que va arriver la console individuelle qui amène le jeu dans les foyers, Thomas Guéant.
Tout à fait. Alors c'est l'idée de vendre aux familles, hein, de vendre au plus grand nombre et... À partir du moment où la console arrive dans le salon, alors il faut que c'était lié à la télévision, hein, et dès les premiers Ralph Baer voulait lier la console de jeu à la télévision. C'est une télévision augmentée, hein, c'est l'idée de base. Et donc ils y arrivent à partir du fin 70, début 80, après que les premières consoles, la ColecoVision, l'Atari, ce genre de choses. Et alors là, le jeu change, puisque l'idée était de jouer en famille. On le voit d'ailleurs sur les jaquettes publicitaires. C'est principalement les enfants qui jouent ensemble, des fois le père, des fois plus rarement la mère. Et donc un jeu où non seulement les enfants d'une fratrie, mais également bien sûr les amis qui commencent à se réunir sur le canapé en face de la télé.
Ouais, parce que rapidement on passe de une à quatre manettes et ça devient un moment de partage collectif.
Ça devient un moment de partage collectif, le squat un peu devant la console. Alors c'est... Pour arriver à 4, hein, l'évolution des interfaces, c'est pas tout de suite, hein, c'est assez tardif d'arriver à 4, mais avant c'était 2, hein, principalement, avec cette idée que le jeu vidéo d'emblée peut être joué soit de façon solitaire, ce qui est radicalement nouveau, cette idée d'un jeu solitaire, d'une démocratisation du jeu solitaire, et également à 2, et c'est le même jeu, hein, on joue soit face à l'intelligence artificielle, soit on joue avec ou contre un ami.
Alors vous parlez de jeux en famille, Thomas Guéant. On va faire un saut dans le temps. On assiste à un tournant en 2006 avec la sortie de la Nintendo Wii. 100 millions de Wii vendus dans le monde. C'est la console la plus vendue de sa génération. Et ça, c'est vraiment un vrai tournant. C'est inédit, l'idée de cette console qui est vraiment familiale.
Oui, c'est-à-dire que Nintendo a réussi ce passage-là avec quelque chose de très simple qui était l'interface, c'est-à-dire que le jeu vidéo jusqu'à présent possédait une grammaire interfacée, si vous voulez, une grammaire gestuelle extrêmement compliquée qui nécessitait tout un apprentissage et en ce sens-là une culture. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on va appeler, pour faire un coup droit avec un jeu de tennis avant la Wii, il fallait appuyer sur tel bouton, le bouton bleu ou le bouton X. À partir du moment où la Wii réinstaure une grammaire gestuelle naturelle, hein, c'est-à-dire mon bras fait le mouvement, cela, tout le monde peut le comprendre, de la mamie au plus jeune, c'est assez simple. Et c'est ça qui va permettre véritablement de réunir tout le monde, on va dire d'enlever cette barrière que constituait la technique et la gestuelle du jeu vidéo, et puis le contenu des jeux, et puis le fait que le spectacle se décale. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Avec la Wii, on le voit, c'est-à-dire que le spectacle n'est plus tant à l'écran, il est dans le salon.
Ouais. Alors, dernière étape en date, Thomas Guéant, peut-être sur l'évolution des pratiques liées à l'évolution de la machine, c'est la mobilité, l'explosion des jeux sur tablette. Et là, même les plus petits des enfants peuvent s'amuser.
Tout à fait. Et là, on le voit, c'est vraiment un succès phénoménal. On le voit pour les ventes, notamment dans ces périodes de fêtes. Les tablettes, c'est tactile. C'est encore une fois une grammaire gestuelle très simple, naturelle. Et les enfants, à partir d'un an, arrivent à jouer à un jeu vidéo de façon très simple. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que le jeu vidéo n'est pas si peut être infraverbal, ce qui a souvent été pas toujours étudié, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire vraiment quelque chose de l'action, de l'acte pré-symbolique.
Alors tout ce qu'on vient de dire, Thomas Guéant, constitue une sorte d'histoire des pratiques sociales du jeu aux États-Unis, en Occident de façon plus générale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pratiques restent aujourd'hui très diversifiées selon les cultures, en fait.
Oui, alors. Elles sont en même temps diversifiées selon les cultures et en même temps communes. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est les parcours du statut du jeu selon les différents endroits de la planète, selon les différentes cultures, et qu'il y a des filiations. Et si on voit par exemple au Japon, Nintendo est une marque qui avant faisait des jeux traditionnels. Au Japon, nous avons déjà des lieux du jeu comme les salles de pachinko que Kaiwa décrit, qui sont ces espaces. Alors lui, il était très sévère hein, vis-à-vis des jeux de pachinko, Roger Kaiwa.
Alors le pachinko, c'est ce jeu qui a un gros succès au Japon, une espèce de mélange de flipper et de machine à sous.
Exactement. Exactement, et où vous pouvez avoir des rangées de Japonais. Et alors là, pour le coup, pas simplement des jeunes, hein, c'est des adultes, voire des seniors, hein, et qui peuvent passer des journées dans ces salles avec, de la même manière, beaucoup de bruit, beaucoup de... Et puis cette question du jeu d'argent également. Et les salles d'arcade japonaises s'inscrivent en partie, en tout cas, dans cette tradition-là, dans cette continuité.
C'est ce qui fait que ça a encore du succès, que ça existe encore de façon plus massive que chez nous, les salles d'arcade au Japon ?
Alors, c'est une particularité japonaise qui est liée à déjà le fait qu'ils sont producteurs eux-mêmes de machines. Ça, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est-à-dire que les boîtes japonaises fabriquent des jeux vidéo depuis très longtemps, des machines. Et qu'ils ont tout de suite su conserver deux aspects. L'aspect compétitif avec des salles d'arcade où en fait il y a un lieu de sociabilité où jeunes, garçons et filles se réunissent dans la salle d'arcade, se mesurent les uns aux autres, cette sociabilité locale. Et également la version spectaculaire, c'est-à-dire très rapidement pour eux, le jeu vidéo est considéré comme un spectacle, comme une, on respecte la performance, vraiment la performance, qu'elle soit encore une fois compétitive ou esthétique, par exemple avec les jeux de danse. Il y a beaucoup au Japon de jeux de danse, de jeux de musique, et où là c'est plus mixte d'ailleurs, les jeux de danse, et où les gens viennent regarder les copains jouer, puis les défier et enchaîner. Et en France, ça a disparu pour différentes raisons, notamment, on va dire, les lieux et également la démocratisation des jeux à domicile. Il faut voir que on va dire, le domicile japonais est beaucoup plus restreint également. On peut inviter moins de monde. Donc c'est aussi à prendre en comparaison entre l'espace public et l'espace privé, au niveau de la taille, au niveau du confort et ce genre de choses.
Ouais, l'espace de la salle de jeu au Japon est beaucoup plus investi. On voit des salles qui sont combinées avec des bibliothèques. On peut lire des mangas, regarder des animés.
Certains, oui, tout à fait, peuvent être effectivement combinés avec après des établissements où vous avez tout le divertissement, les mangas, les animés. Vous pouvez avoir des salles même, ce qui est assez intéressant dans ces espaces-là. Vous avez des salles où vous pouvez réserver la salle pour une heure ou pour une soirée avec une console de jeu, une console de salon par exemple aussi, hein, une PlayStation ou Xbox, et votre jeu et y jouer tout seul. Donc c'est aussi lié à l'architecture, à l'urbanisme japonais également, et à cette idée de pouvoir consommer votre divertissement de façon solitaire ou à deux ou en couple également.
D'accord. Eh bien, on va aller explorer ces différentes pratiques dans le monde justement en allant au Venezuela, en faisant un crochet par l'Australie. On va en Australie avec cette musique du jeu vidéo Dai, le tigre de Tasmanie, un jeu développé par le studio australien, justement Chrome Studio. L'Australie est le pays du monde à avoir le plus fort taux d'équipement en ordinateur individuel et en console de jeu. Cela implique nécessairement des pratiques spécifiques et massives. Alors on retrouve Thomas Perley. Thomas Perley est ethnologue, il enseigne ce que l'on appelle les Game Studies à l'université New South Wales à Sydney. Thomas Perley, quasiment tous les Australiens possèdent un support pour jouer aux jeux vidéo.
Well, the most recent large survey of 1,000 Australian households.
Selon l'étude la plus récente, qui porte sur 1000 foyers australiens, 92% des foyers ont un ordinateur ou une console de jeu. C'est très élevé. Seulement 8% des foyers n'en ont pas.
Est-ce que ce taux d'équipement implique une pratique particulière des jeux vidéo à la maison, donc dans le salon ?
Oui, d'habitude, il y a un espace dans le salon. Pour les enfants et les adolescents, c'est plutôt dans la chambre. Comme les gens ont de plus en plus accès souvent à des consoles mobiles, ils jouent n'importe où en fait. En Australie, on trouve aussi beaucoup de cybercafés. Et l'atmosphère pour jouer aux jeux vidéo y est beaucoup plus conviviale. Ce sont des lieux pour les expatriés et les immigrés. Ils sont très nombreux dans les villes australiennes et ils viennent principalement d'Asie.
Thomas Perlet, cette importance des cybercafés est aussi due aux étudiants internationaux qui sont nombreux en Australie.
Oui, Melbourne est l'une des premières villes du monde pour le nombre d'étudiants étrangers. Ils viennent au cybercafé pour socialiser, pour étudier et pour jouer aux jeux vidéo.
La législation particulière sur les jeux vidéo en Australie pourrait en modifier l'usage aussi. Il y a une controverse importante parce que le gouvernement fédéral impose un contrôle drastique, notamment sur l'âge des joueurs, Thomas Perlet.
Oui, Christophe, cette question est vraiment très controversée en ce moment en Australie. Il y a une dizaine d'années, l'Australie n'avait pas de classification par âge pour les jeux vidéo. Et donc, tout jeu vidéo réservé aux adultes était de facto interdit à la vente. Chaque année, des dizaines de jeux vidéo étaient bloqués. Et en fait, récemment, depuis à peu près 18 mois, grâce au lobbying, ça a bougé. On a instauré la classification réservée aux adultes, ce qui a créé plus de flexibilité. Dans le passé, des jeux célèbres ont été interdits pour des raisons diverses. Par exemple, Grand Theft Auto, GTA, Vice City, Fallout 3 aussi, pendant un moment. Et donc la sortie mondiale de ce jeu a été repoussée pour qu'ils puissent le modifier et le sortir en Australie. Et ils ont enlevé toute allusion à la morphine.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, avec le développement du marché en ligne, les plus jeunes joueurs peuvent contourner la censure.
Oui, Christophe, bien sûr. Depuis à peu près 5 ans, la distribution des jeux vidéo passe par le Steam. Il y a une plateforme pour la Wii, pour la PlayStation, pour la Xbox, où vous pouvez acheter directement sans puce. Et donc on peut acheter sur Internet aujourd'hui des jeux qui étaient interdits en Australie sans se soucier de l'importation, sans passer par un magasin. Et donc aujourd'hui, les consommateurs australiens peuvent tout se procurer. En fait, la distribution en ligne a vraiment changé la façon dont ils accèdent aux jeux dans un marché mondialisé. Et ça a aussi changé les prix d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à l'époque où on achetait des cartouches, des CD ou des DVD, on payait entre 60 à 80% plus cher en Australie qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et pourquoi, en fait, il n'y avait pas de raison en fait à ces différences de prix. Ils n'ont plus besoin de venir de loin aujourd'hui. Il suffit de les télécharger sur Internet. Il y a eu des protestations en Australie sur ces différences de prix, car ces différences de prix, justement, ont favorisé le marché d'occasion et le piratage informatique.
Alors Thomas Perlet, vous connaissez aussi très bien le Venezuela, c'est le sujet de votre thèse. Vous avez écrit le chapitre à ce sujet dans le livre de Mark Wolf, Video Games Around the World. C'est intéressant de comparer comment les différences de niveau de vie impliquent des différences dans la pratique des jeux vidéo.
Bien oui, comme souvent en Amérique latine, il y a des cybercafés partout. À Caracas, par exemple, la capitale du Venezuela, on en trouve quasiment un par rue. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un énorme cybercafé, c'est souvent un petit cybercafé avec entre 6 et 12 ordinateurs pour les gens du quartier, en fait. Et donc les clients viennent pour différentes raisons, pas seulement pour jouer, même si évidemment les jeunes viennent souvent pour les jeux. Et en fait, au Venezuela, c'est difficile d'avoir sa propre console ou son ordinateur personnel, parce que c'est hors de prix. Et les logiciels ne sont absolument pas protégés. Donc le piratage est quelque chose de vraiment très répandu. Et vous pouvez acheter au coin de la rue un jeu qui a eu un énorme lancement juste la veille. Donc le lendemain du lancement de Sims 2 aux États-Unis, par exemple, moi j'étais à Caracas et on trouvait le DVD pirate de Sims 2 au coin de la rue pour $6. Et en fait, les pirates avaient passé la nuit sur LimeWire ou BitTorrent à graver des copies de Sims 2 pour les vendre dans la rue le lendemain.
Alors une dernière question, Thomas Perli. Est-ce qu'au Venezuela, vous diriez que le piratage de jeux vidéo contribue à diminuer l'exclusion sociale ?
Oui, précisément. C'est le point de vue que moi je défends. En fait, si on considère que les jeux vidéo sont l'équivalent des romans ou du cinéma, c'est-à-dire un phénomène mondial qui divertit, qui facilite l'alphabétisation et la compréhension du monde, mais qu'on ne permet pas aux gens de jouer alors qu'ils le voudraient, ils ne pourront pas apprendre à évoluer dans un environnement informatique. Et donc je pense que le piratage permet à la jeunesse du Venezuela de contribuer et de participer à un phénomène mondial. Dans un pays développé comme l'Australie ou la France, nous voyons bien que les jeux ou d'autres activités en ligne enseignent à se servir d'un ordinateur. Mais en fait, si on ne joue pas, c'est difficile de développer certaines affinités. S'il n'y a rien d'amusant pour accompagner l'enseignement, les gens ne vont pas s'intéresser aux ordinateurs.
Merci beaucoup Thomas Perley, ethnologue, professeur d'université à Sydney. On vous quitte avec la musique des Sims 2, ce jeu si piraté dans les rues de Caracas. Je rappelle que vous êtes l'auteur des chapitres Australie et Venezuela dans l'ouvrage Video Games Around the World, coordonné par Marc Wolf et qui paraîtra en 2014. Alors peut-être une réaction Thomas Gahon, est-ce que l'accès aux jeux vidéo et le piratage comme au Venezuela peut effectivement contribuer à faire société ?
Oui, mais on en avait déjà des exemples aux États-Unis, en France, en Europe notamment, quand cette barrière économique du jeu vidéo était détournée dans les cours d'école ou dans, encore une fois, ou même au lycée ou dans les écoles d'ingénieurs. Ce qui fait qu'il y a un point d'union, c'est-à-dire véritablement à la naissance, le hack et les jeux vidéo sont de toute façon liés, je dirais, originellement, les hackers, encore une fois du MIT, avaient créé les premiers jeux vidéo parce que c'était des bricolages, des bidouillages, c'était pas prévu. Ils avaient des financements, notamment de l'armée, et ils s'en servaient pour créer des jeux vidéo, pour bricoler. Et cette idée de déplomber, craquer des jeux était véritablement en plus une vitrine pour les groupes de hackers dans beaucoup de, et encore actuellement, dans les jeux vidéo piraté, vous avez, avant de lancer le jeu, vous avez une présentation du groupe de hackers qui ont craqué ou, encore une fois, déverrouillé le jeu.
Et justement, le hacking, le détournement, c'est l'un des facteurs de socialisation aujourd'hui autour du jeu vidéo.
Oui, c'est de la culture c'est tout ce qui a trait à la culture informatique au final, c'est-à-dire de quelque chose, une culture technique, que ce soit donc le piratage, que ce soit le modding, c'est-à-dire la transformation de jeux vidéo, que ça soit également tout simplement à la base réussir, c'est-à-dire les codes pour tricher, que ce soit les solutions. Et vous avez dans la presse spécialisée, par exemple en France, mais aussi dans d'autres pays, était extrêmement présente pour créer une communauté autour du jeu, autour d'une difficulté, hein, la difficulté intrinsèque du jeu, et la difficulté technique du jeu, avec par exemple des phénomènes communs, par exemple au logiciel libre, hein, c'est-à-dire encore une fois la collaboration autour du jeu.
Alors, on a des phénomènes même de détournement un peu étonnants, ce qu'on appelle le machinima, donc cette espèce de court-métrage réalisé à l'intérieur d'un jeu vidéo, c'est une forme de réappropriation collective.
C'est une forme, je crois, de hack du cinéma. C'est-à-dire que moi, je connais pas mal de réalisateurs de machinima qui, en fait, n'avaient pas les moyens des caméras, n'avaient pas les moyens, encore une fois, techniques, ni toujours les compétences pour faire un court-métrage. Et connaissant les jeux vidéo, et avec des jeux vidéo qui permettent de plus en plus d'avoir une liberté, d'avoir la capacité, encore une fois, d'enregistrer ou d'avoir des points de vue, je pense notamment que ce soit Second Life, que ce soit The Movies, que ce soit GTA, leur ont permis de s'exprimer sous un mode qui est celui du cinéma, mais avec des outils du jeu vidéo.
En fait, le jeu vidéo, et notamment avec Internet, devient un facteur de culture commune, partageable.
Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui réunit à la fois au niveau, je dirais, national, d'abord local sur les lieux du jeu, mais aussi national ou francophone, par exemple, par la langue, c'est-à-dire des joueurs qui se mettent en commun pour jouer. C'est vraiment un des facteurs classiques de la sociabilité du jeu, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour jouer. Besoin, ça veut dire qu'on doit en prendre soin et on doit aussi... et alors qu'on doit les battre de temps en temps. Et cet aspect compétitif, donc ça les rassemble, et on le voit notamment sur dans les communautés, on les voit dans les jeux en ligne, avec des joueurs du Québec, de Belgique, d'Afrique et de France. Au-delà, de façon encore plus exponentielle, je puis dire, avec des jeux très connus comme Battlefield, comme Call of Duty, comme World of Warcraft, là, on a vraiment des communautés, une communauté internationale qui joue au même jeu. Et de ce point de vue-là, puisque la culture, c'est quoi ? C'est le partage des mêmes façons de faire, des mêmes façons de penser, des mêmes façons de sentir. Eh bien, par des jeux vidéo partagés, encore une fois, par des gens de différentes nationalités, de différentes cultures, le fait de faire ensemble les rapproche.
Ces jeux en réseau comme World of Warcraft, on va y venir. Mais il y a aussi une constitution tout simplement de communauté en ligne avec des forums, des tutoriels. On échange, on crée une culture.
Oui, on crée une culture, on la développe, les gens contribuent, c'est une économie de la contribution. Encore une fois, devant la difficulté technique, devant cette idée aussi d'une revendication, d'une légitimation de leur culture, de leur passion, je crois que c'est vrai aussi, il faut voir ça au niveau de la passion, comme dans d'autres domaines, hein, que ce soit le tuning, que ce soit les trains miniatures ou ce genre de choses. Et avec cette idée qu'ils développent dans différents domaines, que ce soit de la technique, c'est-à-dire de déconstruire un jeu, de l'améliorer, mais que ce soit aussi du côté artistique, par exemple, avec tout ce qui est fanfiction, tout ce qui est modding, tout ce qui est machinima, et également l'aspect institutionnel, je dirais, par exemple, e-sportive, avec l'organisation de compétitions, de matchs, de classements, avec l'importation, par exemple, de classements de type qu'on a aux échecs et ELO, et qu'on va importer dans des jeux. Et avec ce qu'a décrit assez bien Vinciane Zaban et plusieurs auteurs, c'est-à-dire les liens entre le public, les consommateurs et aussi les éditeurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant également.
Alors, à l'opposé de ces pratiques de socialisation, en fait, on constate qu'aujourd'hui, les jeux les plus joués dans le monde, ça reste les jeux solitaires. Alors, le solitaire classique ou ces avatars modernes comme Candy Crush, jeu développé par l'entreprise britannique King, 45 millions de joueurs dans le monde, rapporte 470 000 euros par jour. Alors, Thomas Gant, est-ce qu'il peut y avoir une pratique sociale de ces jeux solitaires ?
Il y a social, c'est compliqué. En tout cas, le jeu solitaire n'est pas complètement nouveau. Hein. Vous avez regardé tous les casse-têtes, hein, c'est-à-dire, alors que ce soit les puzzles, bien sûr, mais on pense moins aux mots fléchés, aux sudoku, aux réussites. C'est quelque chose qui date depuis assez longtemps. Les gens y jouent énormément. Encore une fois, le jeu solitaire a le moins de contraintes possibles. Vous pouvez y jouer pratiquement n'importe où et vous n'avez surtout pas besoin, vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un d'autre pour y jouer. Donc forcément, il y a plus de facilité à jouer à un jeu solitaire. Donc c'est normal que ce soit les jeux les plus pratiqués. Après, au niveau de l'activité en elle-même, ce n'est pas parce que vous jouez seul qu'il n'y a pas de lien avec les autres, notamment dans ce qui peut être partagé. Sinon, la lecture ne serait pas quelque chose de social, hein, parce qu'on lit seul un livre. C'est après de pouvoir en parler. Alors évidemment, par contre, de parler de Tetris ou de parler de Candy Crush, ça ne va pas très loin. À la limite, c'est des petits trucs et c'est quel niveau tu es. Mais parler de jeux d'aventure, parler de jeux, encore une fois, avec comme Skyrim, avec un monde extrêmement vaste, là, oui, c'est l'idée d'une expérience, une expérience commune, une expérience riche qui peut être partageable.
Ouais, le jeu d'aventure, c'est un jeu solitaire, mais très social, paradoxalement.
Dans le sens où il y a beaucoup plus de choses à partager, à échanger avec l'autre, oui.
Alors, ceci dit, on réfléchit à la façon de partager un jeu solitaire pour faire culture. Au Japon, par exemple, je crois qu'ils développent des systèmes d'infrarouge pour voir qui, dans un même lieu, est en train de jouer au même jeu.
Oui, alors d'abord avec les consoles portables, hein, notamment la DS, et puis surtout avec les smartphones. L'idée que... c'est une idée qui est venue avec cette idée du web 2.0, du réseau, hein, véritablement, c'est que le jeu permet, le jeu et son infrastructure, permet de rencontrer d'autres joueurs qui vont devenir après effectivement soit des adversaires, soit des partenaires de jeu. Et c'est finalement, si on est d'accord, le jeu qui trouve les personnes. J'ai eu un exemple comme ça d'un adolescent qui prenait le train avec sa famille et qui tout d'un coup a su qu'il y avait dans un autre wagon un autre joueur, et ils se sont retrouvés côte à côte pour jouer à leur jeu en commun. Donc c'est bien sûr les éditeurs qui favorisent cela en mettant ces possibilités-là, mais il y a cette idée effectivement que le jeu permette de rencontrer les autres.
Alors avec Candy Crush, Thomas Gaon, on peut défier ses amis aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Il fait partie de ce qu'on appelle le groupe du social gaming. Ces jeux où l'on peut partager ses résultats sur les réseaux sociaux, voire où l'on a besoin des autres pour avancer. Mmh. Mais est-ce qu'avec le social gaming, on n'est pas dans une socialisation du jeu réduit à sa définition la plus pauvre?
Oui, c'est effectivement un moyen pour les éditeurs de capturer, si je puis dire, ou en tout cas de faire. C'est-à-dire que les joueurs sont publicitaires. C'est-à-dire qu'en répandant le fait qu'ils jouent et leur demande de vie, de bonus, etc., ils entraînent leurs partenaires, d'abord leurs amis non-joueurs, à s'intéresser au jeu, voire à jouer, dans cette idée de don contre don, et qui est en fait totalement exploité effectivement par les éditeurs pour faire de la pub et pour que les joueurs deviennent interdépendants et donc qu'ils consomment d'autant plus. On le voit notamment avec Candy Crush, on le voit avec Farmville. Et par contre, ce qui s'échange, c'est pas grand-chose. Hein. C'est j'appuie sur un bouton, t'appuies sur un bouton, et puis voilà. Hein. C'est souvent asynchrone et on ne discute pas tellement de Farmville. Mais il y a l'idée derrière quand même que on joue au même jeu, on cède dans le jeu, on fait la même chose. Mais effectivement, au niveau du contenu, c'est assez pauvre.
Ouais, voilà, Farmville, donc développé par Zynga, une entreprise californienne fondée il y a 5 ans et qui compte 306 millions de joueurs dans le monde. Il y a une autre forme de jeu en ligne, on a évoqué très rapidement tout à l'heure, les jeux en réseau, où là, la relation à l'autre, pour le coup, est vraiment au cœur du jeu, Thomas Gaon. Les jeux en réseau, notamment les MMORPG, donc Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Autrement dit, les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. C'est un jeu qui permet à un grand nombre de personnes d'interagir simultanément dans un monde virtuel et qui a un monde persistant. C'est-à-dire que quand on se déconnecte, le monde continue à exister.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un phénomène qui a beaucoup... La recherche est principalement attachée à ces jeux-là, du fait de leur complexité et du fait de leur contenu, encore une fois, anthropologique, si je puis dire. Et à la fois les sciences sociales et à la fois les psychologues se sont intéressés à ces jeux-là, qui sont, encore une fois, pas nouveaux. Hein, c'est-à-dire que dès l'origine, encore une fois, ce qu'on appelle les multi-user dungeons, donc qui datent également de la fin des années 70, étaient développés sur les universités américaines et qui ont connu leur essor avec l'arrivée d'Internet, la démocratisation d'Internet, donc 96, 97, surtout 2000, hein, aux alentours des 2000. Et là, effectivement, parce que déjà, c'est le temps qu'on y passe qui est extrêmement important. C'est un monde, et surtout, c'est l'idée de ce qu'on appelle les jeux sandbox. C'est-à-dire, ce sont des jeux à monde ouvert, c'est-à-dire vous n'êtes pas, vous pouvez jouer à ce jeu-là et pas forcément avoir une mission, quelque chose à faire d'impératif ou obligatoire. Vous voyez, par exemple, dans Tetris, par exemple, qui est un jeu où, dans les jeux d'action, dans les jeux d'adresse, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas discuter, il n'y a pas de temps mort, vous devez agir. Dans ces jeux-là, eh bien, vous pouvez vous connecter au jeu, être présent dans le monde et tout simplement discuter de recettes de cuisine, de cookies et ce genre de choses. Et c'est durant les temps morts, notamment, de voyage, durant les nuits blanches, en attendant les autres, que se développe finalement un sentiment, déjà des liens, des discussions, et se développe également avec la formation d'équipes, de guildes, c'est-à-dire de groupes stables, l'idée d'une communauté, et surtout que les joueurs, ce monde, le monde numérique, il leur appartient. Hein, c'est-à-dire qu'ils commencent à se l'approprier, à force d'y passer, certains connaissent mieux la géographie de World of Warcraft que la géographie de leur propre pays.
Aujourd'hui, il y a des millions de joueurs connectés partout dans le monde, et si on prend le best-seller du genre, donc World of Warcraft, il sort en 2004 aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 11 millions d'utilisateurs, dont la moitié en Chine. Alors dans ces jeux, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait, il faut des stratégies communes pour avancer. C'est-à-dire que la collaboration, l'échange social est obligatoire.
Oui. C'est fondamental, sachant que, par exemple, le nombre d'informations, je crois que sur les pages wiki, World of Warcraft est je crois, la deuxième page la plus importante du wiki au vu du nombre de quêtes, de missions, de descriptifs, d'informations qu'il y a sur ce jeu. Donc il y a tout un apprentissage du monde, des techniques, de la stratégie. Et au quotidien, quand vous devez faire des missions, oui, il y a énormément, encore une fois, d'interdépendance entre les joueurs. Comme dans beaucoup de sports, hein, au foot, au volley ou ce genre de choses, avec des stratégies. Et de ce point de vue-là, oui, ça rapproche les gens. Ouais.
Mais d'ailleurs, comme dans le sport, les règles d'interaction qui sont proposées par les éditeurs peuvent modifier les relations sociales entre les joueurs. Je pense par exemple au premier jeu en réseau, Ultima Online, en 1997. Des joueurs, à un moment donné, ont pris plaisir à se tuer entre eux. Et là, en 1999, il y a EverQuest qui arrive, qui est développé par Sony Online Entertainment, et qui, lui, interdit les combats entre joueurs et impose la collaboration. Donc la place de l'éditeur dans le choix des règles d'interaction est essentielle.
C'est ce que montrent la plupart des recherches, c'est le gameplay influence. Et Genova Chen, dont on a entendu tout à l'heure parler, qui était dans Game Over, le règne du jeu de vidéo le montre bien, notamment dans son jeu de journée, c'est que le gameplay instaure de facto les possibilités et donc la forme des interactions et des socialisations. La question du PVP, joueur contre joueur, effectivement, finalement, on a séparé les serveurs. C'est-à-dire, vous avez des serveurs dans lesquels on joue joueur contre joueur et donc on ne peut pas se tuer, on ne peut pas affronter les autres joueurs, et d'autres serveurs qui sont joueur contre joueur. Et vous avez encore d'autres serveurs qui sont roleplay, où là, les joueurs vont raconter des histoires. Et ces trois univers-là, ces trois façons de jouer au même jeu, mais trois façons de jouer différentes, finalement, on s'est rendu compte qu'elles ne sont pas toujours compatibles.
Alors, on a dit, Thomas Gahon, qu'il y a une relation sociale qui se crée dans ce monde virtuel, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que des liens sociaux peuvent même dépasser le jeu, même si ce n'est pas la vocation du jeu.
On se veut être une guilde sympathique. On choisit des joueurs matures et qui aiment partager, en fait. Mmh. Et c'est ça qui a permis de faire ces rencontres. J'ai notamment rencontré mon compagnon, avec qui je vis maintenant dans cette guilde. Et je suis pas la seule. Et vraiment, c'est assez exceptionnel, je trouve, comme rencontre. En majorité, nous sommes des couples. Soit qui se sont formés dans le jeu ou qui ont découvert le jeu ensemble. Puis après, il y a soit des amis de la vraie vie, entre guillemets, qu'on a amenés dans le jeu, ou soit des amitiés qui se sont tissées au fil des aventures sur le jeu.
Donc vous vous rencontrez régulièrement de manière réelle avec les personnes,
oui,
de la guilde?
Oui, on n'hésite pas à s'appeler les uns les autres pour faire des choses ensemble, aller dîner ou s'inviter. Aller en vacances. Pour moi, il n'y a pas de différence entre ces gens que j'ai rencontrés dans le jeu et mes amis que j'ai rencontrés, par exemple, par le biais de la fac.
Voilà, c'était un autre extrait du documentaire Game Over de Hervé Martin Delpierre. Cette joueuse parle de sa guilde, donc ce groupe stable dont vous avez parlé, des sortes de clans de joueurs. Et Thomas Gahon, on entend qu'il y a des relations sociales qui émergent et qui n'ont rien de virtuel.
Non, après il faudrait critiquer le mot virtuel, bien sûr que non, mais encore une fois, comme toute activité, c'est-à-dire si par exemple je fréquente une chorale trois fois par semaine, il est possible que soit j'y reste et je fais la chorale et puis je m'en vais, soit je commence à nouer des liens, à décider finalement peut-être de rencontrer les personnes en dehors de cet espace-là. Ce qui se passe, on va dire, dans les jeux de rôle en ligne, c'est qu'à la fois on chante comme dans une chorale, ou on danse, c'est-à-dire l'activité elle-même de jouer, et puis encore une fois, c'est dans tous ces temps morts, dans tous ces canaux de discussion supérieurs comme le chat vocal, où un peu de l'intimité se révèle et on peut tisser des liens. Et après, effectivement, on peut, encore une fois, se rencontrer en chair et en os. Et de plus en plus, moi, je vois par exemple des adolescents qui disent à leurs parents, je vais rencontrer Pierre. Et les parents ne savent pas du tout qui c'est Pierre. Ils disent, mais si, c'est un super ami, ça fait 4 ans que je le connais. Et en fait, ça fait 4 ans qu'ils jouent ensemble sur Internet, ils ne se sont jamais vus. Et pourtant, si on calcule le nombre d'heures, mais surtout les émotions ressenties en commun et les informations qu'ils ont échangées, elles sont assez comparables à une relation amicale, des fois même plus.
Et ça permet aussi des rapprochements interculturels, parce que les guildes, ça peut être 100, 200 personnes qui viennent de pays complètement différents.
Tout à fait. Tout à fait, avec cette idée d'échange, avec cette idée de la langue, hein, la langue technique, la langue anglaise principalement, qui est utilisée pour unifier un peu toutes ces différences, et avec des rencontres, des fois, dans certains pays. Ouais.
Est-ce qu'on ne pourrait pas aller jusqu'à dire, Thomas Gahan, que les jeux en réseau sont une sorte d'extension du monde social et donc un lieu d'expérimentation de nouvelles façons de faire société, éventuellement de relations sociales novatrices ?
Je ne dirais pas extension dans le sens où je crois que c'est au cœur, ça fait partie, c'est un outil, enfin, Huizinga en parlait bien, c'est-à-dire que ça fait partie de la culture, ça fait partie de la société, c'est un des facteurs de socialisation de base, je dirais, le jeu vidéo comme le jeu de société, comme le jeu traditionnel, si je puis dire. Par contre, c'est effectivement l'ampleur que cela prend, les possibilités permises par Internet, avec, je crois que ce qui est important, c'est toute la variété des usages. C'est-à-dire que le e-sport est une particularité vraiment intéressante. C'est de la compétition. Ça se rapproche à la fois des échecs et du foot, hein, quelque part. Et puis, la version amicale, qui est la plus partagée, qui est la plus pratiquée. Et puis, même la question des relations de jouer en couple. Et puis, la question intergénérationnelle aussi. Donc, il y a plein de façons de jouer aux jeux vidéo. Et de ce point de vue-là, ça participe. Ça construit une nouvelle sociabilité. Je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais plus large, plus grande, et surtout autour de cette passion et autour du loisir, effectivement, qui a toujours été une fonction extrêmement importante. Mais
d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas ce facteur social, cette importance du facteur social dans ces jeux-là qui en fait le succès, qui les rend si populaires, presque plus que l'univers fantastique qu'il peut y avoir, qui peut soutenir ce jeu ?
Ça, c'est toujours la culture. C'est vrai pour certains jeux, c'est-à-dire que... C'est vrai qu'on... On voit c'est-à-dire que il y a énormément de différences entre un joueur de World of Warcraft et un joueur de PES. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas à quoi il joue qui les différencie tellement. C'est-à-dire que les déterminants socioculturels restent quand même extrêmement importants et que même des gens qui jouent en commun à un jeu de rôle en ligne, quelle que soit leur différence socioculturelle, finalement, quand on les laisse un petit peu de temps ensemble, on voit bien que les appariements, les regroupements se font quand même sur la base de leur type d'humour, de leur référence culturelle, et ce genre de choses restent quand même prédominants. C'est pas parce qu'on fait la même chose qu'on est pareil.
Allez, on va aller justement vers la Mecque du jeu en réseau, la Corée du Sud.
Je connais maintenant mon véritable ennemi. Je suis les saints. Les armées seront anéanties. Des mondes calcinés. Je tiens enfin ma revanche.
Combien d'innocents sont déjà morts ? Combien vont encore mourir ? Que dirait Raynor s'il te voyait ? Qu'est-ce que t'as fait ?
Je n'avais pas le choix.
Direction la Corée donc avec cette bande-annonce de StarCraft 2 qui est l'un des jeux en ligne les plus populaires là-bas. En Corée du Sud, 17 millions de personnes jouent aux jeux en ligne sur près de 50 millions d'habitants au total. Les jeux en ligne représentent plus de 70% des ventes des jeux vidéo. Et c'est même devenu donc un sport, le e-sport. Alors on retrouve Hong-jin Park, joueur amateur de e-sport, traducteur pour des équipes coréennes et co-scénariste d'un documentaire en cours de réalisation sur les jeux vidéo dans le monde. Hong-jin Park, en Corée, le jeu en réseau est presque un sport national.
On peut dire ça, en fait, c'est surtout chez les jeunes que ça se joue beaucoup. C'est un peu lié à la résistance des Pichibang, qui est le cybercafé, qui se trouve à peu près à tous les 50 mètres, à Séoul surtout. Et donc, les jeunes se réunissent très facilement dans un petit banc et de jouer en réseau ensemble.
Les jeunes, bien sûr, mais ça va tout de même bien plus loin que ça comme phénomène. Il y a, je crois, un tiers de la population coréenne qui joue régulièrement à des jeux en ligne.
Oui, bien sûr. Mais en fait, disons, avec l'arrivée de smartphones, disons, les personnes un petit peu plus âgées, entre guillemets, jouent sur les jeux de smartphones. Alors que le jeu de réseau est un petit peu concentré sur les jeunes parce que en fait le niveau des vieux, entre guillemets, ne peut pas, disons, suivre le niveau des jeunes.
Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de compétition dans le jeu en réseau.
Oui, 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 bien sûr.
Alors, vous parlez justement des PC Bangs. Donc, ce sont les cybercafés locaux. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ils fonctionnent. Il y a vraiment partout, hein, des PC Bangs.
Oui, ça est arrivé à la fin des années 90. À l'époque, il y avait un réseau spécifique pour les PC Bangs. Donc, chez un particulier, ça tournait à 50 mégas, alors que dans les PC Bangs, on avait un tera de vitesse. Donc, c'était beaucoup plus rapide. Et c'est ouvert 24 sur 24. Et puis, le tarif est très, très intéressant. Et surtout, quand on y passe la nuit, on peut jouer pendant 8 heures pour un prix de 3 euros. Donc, c'est très, très bon pour les un peu démunis.
Ce qui fait que, alors, je crois qu'il y avait une centaine de PC Bangs à la fin des années 90. Il doit y en avoir plus de 26 000 aujourd'hui. Et ce sont des vrais lieux de sociabilité en Corée, en fait.
Oui, bien sûr. Déjà, quand j'étais en Corée, ça m'est déjà arrivé souvent de sortir avec mes amis pour aller à PC Bang et de jouer à StarCraft ensemble. Même il y a des salariés qui utilisent leur déjeuner pour jouer à une ou deux parties de StarCraft ensemble. Donc, c'est vraiment un endroit où on réunit très, très facilement. Et en plus, il y a des casse-croûtes, donc on peut manger sur place, donc on peut tout régler sur place. Donc c'est vraiment un endroit idéal pour les jeunes, même pour les jeunes adultes, de se réunir.
C'est une activité sociale comme on irait boire un verre, en fait.
Exactement.
Ouais. Alors de quoi on parle quand on parle de jeux en ligne, de jeux en réseau? Vous avez cité StarCraft qui est un des best-sellers. Sont des jeux de stratégie, des jeux de combat? On joue contre d'autres joueurs? Comment ça se passe exactement?
Disons, il y a un peu de tout. Disons, avant l'épopée de StarCraft, il y avait un jeu role-playing qui s'appelle Lineage qui a fait vraiment un grand, grand succès en Corée. Mais sinon, disons, StarCraft a tout de suite attiré l'attention des Coréens parce qu'en fait, on aime bien faire une petite compétition sympathique. Et une partie de StarCraft ne dure pas plus d'une demi-heure en général. Donc, c'est très, très rapide. Donc, ça colle très bien au tempérament des Coréens.
Ouais. Justement, vous parlez de tempérament des Coréens. Comment vous expliquez ce phénomène des jeux en ligne? Parce que vous avez parlé du prix attractif, de la vitesse de connexion Internet, qui est l'une des plus rapides du monde d'ailleurs. Mais il n'y a pas que cela.
Disons, il faut voir sur deux côtés. Premièrement, donc l'environnement de l'époque a fait beaucoup d'investissements pour préparer l'infrastructure numérique parce que pour avancer dans l'économie, ils devaient trouver un domaine tout nouveau, donc c'était informatique. Et puis deuxièmement, les Coréens sont ce qu'on appelle un peu les latins en Asie, c'est-à-dire qu'on est assez joyeux, on aime bien faire les fêtes, on aime bien réunir, on aime bien rencontrer les gens, même les inconnus. Donc en fait, je pense que ces deux facteurs sont réunis pour faire développer un peu cette activité économique assez particulière, surtout pour un pays qui sortait de difficultés économiques des années 60-70.
C'est-à-dire que les jeux en réseau sont un moyen de rencontrer des gens en ligne et d'échanger, de créer des relations sociales au-delà du jeu?
Oui, bien sûr. Il y a même des jeunes qui se sont rencontrés dans les jeux et puis finalement ils se sont mariés parce qu'ils sont tombés amoureux en jouant ensemble en réseau tout en étant très éloignés géographiquement. Et de toute manière, quand on joue, même en role-playing ou en jeu de stratégie, en fait, on est obligé de rencontrer des inconnus et puis finalement, on devient amis en partageant ensemble quelque chose.
Tout à l'heure, je vous demandais en plaisantant si c'était le sport national, mais plus sérieusement, en Corée, les jeux en ligne sont devenus véritablement un sport, ce qu'on appelle le e-sport.
Exactement. Il y a même des télévisions qui sont vraiment dédiées à e-sport. Et puis, on a des joueurs professionnels qui sont reconnus comme sportifs à part entière.
Il y a des matchs en public dans des stades que vont voir les Coréens
Oui, oui, oui. À chaque fois qu'il y a un match, en fait, ça fait réunir 2000-3000 personnes sans problème. L'émission est de manière diffusée en direct. Ça attire vraiment l'attention de beaucoup de gens.
tout de même Hongjin Park, on a l'impression comme ça que les jeux en réseau, c'est un peu le paradis, mais ça pose des problématiques de santé et d'addiction. En Corée, le gouvernement coréen a fait passer une législation pour limiter cette pratique.
Disons, on ne peut pas avoir que de bon côté d'une chose. Donc, il y a des gens qui sont un peu addicts et puis qui passent trop de temps sur un jeu. Malheureusement, il y avait certaines personnes qui ont été mortes parce qu'ils ont joué sans manger, sans dormir pendant 3 jours, 4 jours. Et du coup, le gouvernement veut, disons, adopter une loi qui interdise un peu un excès de jeux. Par exemple, récemment, le gouvernement a adopté une loi qui coupe l'accès à l'Internet des mineurs. Et il y en a certains qui sont pour, il y en a certains qui sont contre. Mais c'est vrai que surtout les parents sont très inquiets de leurs enfants qui passent plus de temps devant l'ordinateur que devant leur bureau pour travailler.
C'est vrai que ce sont des faits divers qui ont motivé cette restriction. Vous, qu'est-ce que vous en pensez et comment sont perçues ces restrictions en Corée?
Moi, personnellement, c'est, disons, c'est un sport. Hein, et quand il s'agit d'un sport, en fait, chacun à sa manière de jouir de ce sport. Donc c'est un problème personnel, ce n'est pas un problème institutionnel, je pense, de toute manière. Même si, il y a beaucoup de mineurs qui n'ont plus de l'accès à partir de minuit, se connectent sur l'Internet avec les IP de leurs parents. Ceci dit, une loi ne peut pas résoudre un problème le jour au lendemain.
Merci beaucoup Hongjin Park, joueur amateur de e-sport, traducteur pour des équipes coréennes et co-scénariste d'un documentaire en cours de réalisation sur les jeux vidéo dans le monde. On vous quitte avec cette musique de Lineage 2, un jeu en ligne coréen extrêmement populaire. Alors Thomas Gaon, il nous reste 30 petites secondes peut-être pour une réaction. On voit en Corée que la passion du jeu peut aller très loin. Comment on régule les excès ?
Avec le temps, encore une fois, c'est les mutations font qu'on a du mal à digérer et à produire des formes de régulation adaptées aux jeux vidéo. Le temps, la confiance et la discussion, et puis des fois, dans certains cas, l'appel à des professionnels. Mais encore une fois, je crois qu'il l'a bien résumé, c'est une question à la base qui est personnelle. Let's take them back.
Merci beaucoup Thomas Gaon d'avoir été avec nous. Je rappelle, psychologue clinicien, administrateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Signaler également l'exposition Jeux vidéo à la Cité des sciences et de l'industrie, une exposition dirigée par le philosophe des jeux vidéo Mathieu Triclot et que vous pouvez visiter jusqu'au 24 août 2014. Merci à toute l'équipe de Culture Monde, Salomé Vio, Pauline Blisten, Mathilde Gohanek, à la réalisation Delphine Lemaire et à la technique Myriam Guillot.